Nous sommes très heureux d'être parmi vous à Perpignan. On aura toujours beaucoup de plaisir à venir. Bon, d'une part à cause du climat, c'est certain. Mais c'est surtout pour vous voir à vous et d'être ensemble pendant quelques jours. Et puis, nous sommes d'autant plus heureux d'être dans le cadre d'une expo Bible. J'aime beaucoup les expos Bible. J'aime l'ambiance d'une expo Bible, de voir toutes ces Bibles, de regarder ces panneaux qui racontent l'histoire de la Bible, comment elle nous est parvenue. La Bible est un livre extrêmement mystérieux pour les gens. Pendant très longtemps, il était interdit en France de lire la Bible. Dans le Concile de Toulouse, qui s'est réuni en 1250, il a été interdit d'avoir une Bible en sa possession, sous peine de persécution et de mort. Et après, quand une fois que la Bible était plus disponible, que la loi n'exigeait pas que de la détruire, qu'on pouvait quand même avoir une Bible, après, c'est l'Église catholique qui disait aux uns et aux autres, pendant des siècles, et jusqu'à une époque extrêmement récente, la Bible est un livre mystérieux. Si vous essayez de la lire et la comprendre par vous-même, vous risquez la damnation éternelle. Il n'y a que le prêtre qui est ordonné par l'Église qui pourra vous la lire et vous la faire comprendre. Si vous n'êtes pas en présence d'un prêtre, il vaut mieux ne pas vous risquer d'ouvrir ce livre. Puis plus près de nous, il y a d'autres mouvements. Je pense par exemple au mouvement des témoins de Jéhovah. Si vous en avez connu, si vous en connaissez, vous connaissez des gens qui sont très sincères, qui sont animés de beaucoup de bonne volonté pour aller apporter leur enseignement aux uns et aux autres, qu'ils font avec une très grande fidélité. Donc il y a beaucoup de bons points. Mais leur fondateur, M. Russell, a dit ceci. Après avoir écrit toute une série de commentaires, il a dit, si vous lisez les commentaires que j'ai écrits sans lire la Bible, vous allez comprendre la Bible de mieux en mieux. Tandis que si vous lisez la Bible seule, sans lire mes commentaires, vous allez comprendre la Bible de moins en moins, et ça sera la condamnation pour votre âme. Alors dans ces circonstances, vous avez d'un côté les gens qui disent « ne lisez pas la Bible parce que vous ne pourrez pas la comprendre », de l'autre côté ils disent « lisez la Bible mais avec mes commentaires si vous ne pourrez pas la comprendre ». Et alors, est-ce que c'est possible? On a des Bibles qui ne sont même pas très chères. C'est, on dit, le prix d'un café, 1,50 €. On a une édition de très bon marché. Mais les livres, la Bible est tellement méconnue que des gens qui voient une belle Bible avec de dorures et images dans une grande librairie qui coûte 150 €, puis qui voient une Bible comme ça qui coûte 19 €, ils disent, ça ne peut pas être le même livre. Vous n'en avez qu'une partie, c'est trop petit. Alors, il faut leur montrer dans les grosses Bibles, beaucoup d'enluminures, des images, les feuilles épaisses, l'écriture est grosse, mais vous leur montrez la table des matières, ils s'aperçoivent que tout le texte de la petite Bible est dans la grande Bible et vice-versa. En fait, il n'y a vraiment qu'une Bible. Vous avez en quelque sorte, aujourd'hui, dans les librairies, vous avez la Bible dite catholique, c'est une Bible qui contient tous les livres de cette Bible. En plus, il y a 13 livres supplémentaires qui ont été ajoutés au XVIe siècle. Donc, 16 siècles après la fin de la Bible, on a ajouté 13 livres de plus. Puis vous avez celle-ci, qui a les 66 livres approuvés et mis dans la liste par le peuple d'Israël avant Jésus-Christ et puis par l'Église au cours des deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Alors, si on ouvre une Bible, parce qu'il s'agit de parler une Bible, oui, mais plusieurs interprétations. Quand on parle aux gens de la Bible, invariablement, ils vous disent ceci. De toutes les façons, vous savez, chacun la lit à sa manière. Chacun comprend ce qu'il veut. Vous vous dites que vous avez la vérité, vous dites que vous lisez la Bible, mais je connais des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils disent, ils lisent la Bible aussi, qu'ils y croient. Alors, si la Bible est tellement facile à comprendre, pourquoi vous n'avez pas le même discours? Donc, c'est la preuve que chacun peut lire ce qu'il veut et comprendre ce qu'il veut. Alors, ceci est vrai. Non pas que la Bible dit les choses et son contraire, mais si vous voulez trouver à tout prix quelque chose dans la Bible, vous finirez par le trouver. Par exemple, si vous dites « j'aime le communisme et je voudrais que nous soyons tous communistes, qu'on n'ait plus de propriété privée, qu'on n'ait plus de richesse personnelle, mais que chacun partage avec tout le monde. » Vous trouverez une phrase dans la Bible qui parle de ça. Dans les premiers jours de l'église de Jérusalem, la Bible dit « ils avaient tout en commun, ils prenaient leur repas ensemble, ils vendaient leur maison et mettaient l'argent dans une caisse commune parce qu'il y avait beaucoup de pauvres parmi eux et il s'agissait d'être solidaires. » C'est le récit qui est fait par la Bible, donc, de cette première église à Jérusalem. Ce n'est pas un état de choses qui a duré. Mais ça a été pendant un certain temps le cas dans l'Église. La Bible n'enseigne pas qu'il faut le faire. La Bible dit simplement que ça s'est fait à un certain moment. Comme on voit si un groupe de personnes est en très grande difficulté et que ces personnes s'aiment et veulent être solidaires, on trouvera le même phénomène. Les gens vont dire, vous êtes très pauvre, moi j'ai un peu de moyens, je vais partager ce que j'ai avec toi. Mais c'est volontaire, c'est pour un temps. C'est pour répondre à des besoins. Donc, la Bible a un seul sens et chaque partie de la Bible a un seul vrai sens. La Bible n'est pas un livre humain, mais la Bible peut être interprétée comme n'importe quel autre livre. C'est-à-dire, la Bible dit ce qu'elle veut dire et elle veut dire ce qu'elle dit, si vous me comprenez. Alors, on va regarder quelques textes de la Bible, bien sûr. Le premier et le texte fondateur, c'est 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous lisons ici toute écriture, et quand il parle de toute écriture, il parle de tous les écrits dans ce livre. Toute écriture est inspirée ou insoufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est énorme ce que disent ces deux versets. Ces deux versets disent d'abord que la Bible vient directement de Dieu. L'idée d'être insoufflé de Dieu, c'est que l'être suprême de l'univers, le créateur de tout l'univers, a voulu se faire connaître à nous. Alors, il a insufflé dans des écrivains humains, chez des hommes, des pensées qu'ils voulaient communiquer. Et puis quand ces hommes se sont mis à écrire, il les a guidés dans le choix des mots pour que ce qu'ils mettent sur le papier soit exactement ce que Dieu voulait communiquer. Ce qui veut dire que la Bible dit elle-même que chaque parole qui est dans ce livre est là parce que Dieu voulait qu'elle soit là et que chaque message, chaque vérité est là parce que Dieu voulait qu'elle soit là. La Bible est peut-être le seul livre au monde à dire, elle est le seul livre au monde à dire qu'elle est inspirée de Dieu. Aucun autre livre, même aucun autre livre religieux ne prétend être inspiré de Dieu comme la Bible. Non seulement Dieu donne ses pensées, mais il dit c'est très important de lire ce que je pense et lire ce que je vous dis, parce que peut-être que vous êtes ignorant. Et si vous êtes ignorant sur un sujet, je vais vous l'enseigner. Dieu dit peut-être que vous n'êtes pas sûr. Alors, ce que je vous dis va vous convaincre. Il dit peut-être que vous avez une idée fausse, erronée. Eh bien, ce que je vais vous dire va corriger cette idée fausse et vous donner une idée juste. Et puis, il dit, peut-être vous ne savez pas comment vivre votre vie dans le quotidien. Il dit, eh bien, dans ma Bible, je vais vous instruire dans la justice, dans la droiture. Et il dit finalement, dans le deuxième verset, il dit, en fait, si vous lisez ce livre, si vous y prêtez attention, vous serez équipés pour vivre d'une manière droite, correcte et utile. Dans votre vie personnelle, dans vos attitudes, dans vos actions, dans votre témoignage, dans vos valeurs, vous vivrez une vie juste et utile si vous suivez soigneusement ce que je vous dis dans ce livre. Alors, si tel est le cas, ce que dit la Bible, c'est ça qu'on vient de lire. Il est donc très important d'ouvrir ce livre et de la comprendre. Puisque Dieu nous promet tellement de magnifiques choses si on lit la Bible et si on veut la comprendre. Alors, l'autre texte qui est fondamental, c'est en 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Là, l'apôtre Pierre, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre, cette fois, qui écrit, « Sachant tout d'abord vous-même, » ça c'est chapitre 1, verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. » Qu'est-ce qui veut dire « aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière » ? Ça veut dire que, là vous avez, moi par exemple, dans ma Bible, et c'est écrit petit, hein, j'ai plus de 1000 pages de texte. Donc ça en fait des phrases. Mais la Bible dit, quand Dieu dit quelque chose sur une de ses pages, vous ne pouvez pas prendre cette phrase et la sortir de son contexte et lui faire dire autre chose que ce que disent le restant de la Bible. Autrement dit, Dieu dit, vous n'allez pas bien interpréter la Bible si vous dites, par exemple, dans ce texte, Dieu dit noir, et dans cet autre texte, Dieu dit blanc, la Bible se contredit. Il dit non, vous ne pouvez pas le faire. La Bible est un ensemble, et toutes les parties de la Bible doivent être interprétées à la lumière de toutes les autres parties. Ça fait un tout. Et pour faire comprendre ce qu'il voulait dire, il dit dans le chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 16, l'apôtre Pierre parle des autres livres de la Bible, il dit les autres écritures, et il parle des lettres que Paul avait déjà écrites, qu'il connaissait. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, il parle de Paul, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Il dit, il est possible de tordre le sens des écritures, de tordre le sens. Vous savez, au Moyen-Âge et pendant l'Inquisition, pendant ces temps de persécution religieuse, on avait inventé ce qu'on appelle la roue. C'était un instrument de torture. Alors on mettait la victime là-dessus, on liait mains et pieds, et avec des roues, on commençait à tirer, ce qui faisait qu'on entendait, excusez-moi d'en parler, mais des craquements et des os quittaient les articulations. Ça se séparait peu à peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait que les os n'étaient plus tenus ensemble par les articulations. Et la souffrance suprême, c'était de tordre un os. Ça faisait des douleurs horribles. Mais ce qu'il dit ici, c'est que toutes les vérités qui sont dans la Bible, c'est comme un corps. C'est comme un corps bien coordonné, bien harmonieux. Chaque vérité est à sa place. Mais il dit, si vous commencez à arracher une vérité, vous les détachez, une vérité de toutes les autres, c'est comme si vous essayez de prendre le genou de quelqu'un et commencez à le tirer et à le tordre. La personne va crier. Hein. Vous allez tordre le sens des Écritures. Vous ne devez pas le faire. Si vous voulez respecter la Bible et son message et bien le comprendre, il faut laisser toutes les vérités, chacune à sa juste place, ça forme un tout harmonieux. Et quand on obéit à ces deux règles d'interprétation, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Donc cela est très important. On a donc vu que la Bible dit, elle dit qu'elle est insufflée de Dieu. La Bible dit qu'elle nous transmet les pensées de Dieu. Dieu a communiqué avec l'homme à travers la Bible. C'est le seul livre au monde qui dit cela. Ensuite, On a vu que on ne peut pas prendre un texte et lui faire dire n'importe quoi en contradiction avec les autres textes. Chaque texte doit être mis en rapport avec l'ensemble. La troisième chose, si on veut prendre un texte ou une idée et le sortir et le tordre, ça va amener notre propre ruine. Paul a dit, les gens qui tordent le texte le font pour leur propre ruine. C'est terrible. Un petit exemple, je ne veux accuser personne ici, mais juste une idée de comment ça peut être dramatique, l'interprétation de la Bible. Dans Lévitique chapitre 17, vous avez un texte qui parle du sang. Chapitre 17, versets 10 et 11. Alors, vous ouvrez Lévitique 17, vous dites, mais de quoi parle-t-il? Eh bien, il faut savoir, vous devez le lire, et puis vous verrez qu'on est 1500 ans avant Jésus-Christ. On est dans le désert avec le peuple d'Israël, et Dieu est en train de leur révéler quelque chose par rapport à sa relation avec eux. Il dit, si vous faites un péché, si vous péchez contre moi, vous devez amener un animal innocent, bien sûr, un certain type d'animal, et vous devez verser son sang sur la terre et brûler son corps sur un autel, et je pardonnerai votre péché. C'est très clair. Mais que dit-il dans les versets 10 et 11? Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors vous avez sans doute entendu parler encore une fois des témoins de Jéhovah qui disent nous refusons les transfusions sanguines parce que la Bible est très claire, elle dit en Lévitique 17 verset 11, l'âme est dans le sang. Vous avez entendu ça sans doute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? Nous revenons dans le texte, mais c'est parfaitement clair. L'âme de la chair est dans le sang. Quand on dit âme, quand on parle de votre âme, c'est votre personnalité. Mais si on veut faire mourir un animal et qu'on le vide de son sang, il va mourir. Le sang porte la vie à la chair de l'animal. Et donc, si on vide son sang, on lui ôte la vie. Donc, ce que Dieu disait par là, c'est que si vous faites un péché, ne faites pas juste une coupure sur un animal pour extraire quelques gouttes de sang. Ça ne le fera pas. Il faut que l'animal meure. Il faut que ce qui le fait vivre soit répandu à terre. Et cet animal qui va mourir va payer pour votre péché parce que c'est vous qui aurez dû mourir. Et l'animal sera un substitut pour vous. Mais est-ce que notre âme est dans notre sang? Alors, les témoins de Jéhovah disent, ben oui, la Bible dit que l'âme est dans le sang, par conséquent, je ne veux pas recevoir une transfusion sanguine. Parce que si je reçois le sang de quelqu'un d'autre, peut-être que je vais changer de personnalité. Son âme va entrer en moi et ça n'ira pas. Je ne serai plus moi-même, je serai moi et peut-être quelqu'un d'autre, vous comprenez? Et je ne peux pas prendre l'âme de quelqu'un. Alors si on continue à lire la Bible et on tombe sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 et bien d'autres passages, on voit dans le verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on découvre dans la même Bible que nous sommes trois parties. Nous avons un esprit, nous avons une âme, une personnalité, et nous avons un corps. Alors, le sang fait partie de quelle partie de notre être? Est-ce que le sang fait partie de notre corps, de notre âme ou de notre esprit? Le sang fait partie de notre corps. Donc le sang est un liquide qui est dans notre corps. Et Dieu fait une distinction entre notre corps et notre âme. Alors, bien sûr, quand on va sacrifier un animal et qu'on verse tout son sang, on verse sa vie sur le sang, comme sacrifice. C'est ce que voulait dire Dieu. Mais il ne voulait pas dire que notre âme, notre personnalité est dans notre sang. Parce que si vous perdez un peu de sang, vous perdez un peu de personnalité. Peut-être vous perdriez votre énervement, peut-être vous perdriez votre enthousiasme, peut-être. Et puis si vous receviez une transfusion sanguine et puis vous êtes autre, vous avez changé, et bien oui, j'ai reçu la sang du voisin par transfusion, alors je ne suis plus moi-même, je suis moi-même et un peu quelque chose. Comprenez ce que je veux dire. Mais pas besoin d'aller si loin. Si on lit la Bible et on met le texte dans son contexte, on peut éviter de telles choses. Alors, pourquoi c'est dramatique? Ça peut paraître anodin pour nous, eux. Ils n'ont pas bien compris. Oui, mais si vous avez un enfant qui est entre la vie et la mort, et que les médecins disent qu'il a besoin d'une transfusion sanguine, il a besoin de plaquettes, il a besoin de vaisseaux rouges ou blancs ou autre chose pour guérir, on dit non, la Bible nous interdit une transfusion sanguine. Alors, en l'occurrence, la Bible n'interdit pas la transfusion sanguine. Tout ce que Dieu a dit, c'est que l'âme est dans le sang. Il n'a pas dit plus. Vous voyez, mais par extrapolation, on va dire, ah oui, alors donc, puisque c'est comme ça, je dois... Et donc, des enfants et des adultes sont morts. Pas parce que la Bible disait. C'est parce qu'ils ont lu un verset, ils ont pris hors de leur contexte, ils n'ont pas lu le restant de la Bible, ils n'ont pas étudié ce qu'est l'âme dans toute la Bible, et c'est ce que Paul voulait dire, ou Pierre voulait dire, ne prenez pas un verset pour faire une interprétation particulière. Ne tordez pas le sens des Écritures. Ça va conduire à votre ruine. Alors voilà, donc, inspiration, ça vient de Dieu, et on prend chaque verset dans le respect de tous les autres versets de la Bible. Quand on ouvre une Bible tout à fait à la première page, si vous connaissez bien la Bible, vous ne le faites pas, mais si vous le faites pour la première fois, comme tout bon livre, vous ouvrez à la table des matières. Et vous découvrez que ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas juste des chapitres, ce sont des livres. Des livres, écrits à diverses époques. Vous commencez à creuser un peu et vous découvrez que les 5 premiers livres ont été écrits par le même homme, Moïse, 15 siècles avant Jésus-Christ. 15 siècles. Et vous découvrez que le Nouveau Testament, la deuxième partie, a été écrite entièrement en moins d'un siècle, à peu près en 60 ans, ça a été écrit. Alors que la première partie a été écrite sur une période de 1000 ans, en commençant à 1500 ans avant Jésus-Christ, et en se terminant vers l'an 450 avant Jésus-Christ. Vous avez une période de 15 siècles, donc, au cours de laquelle ce livre a été écrit bout à bout, peu à peu, et tous ces petits documents ont été réunis dans un seul livre. Et en lisant la Bible, vous découvrez qu'il n'y a pas de contradiction, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de choses intéressantes. Vous découvrez également, en commençant à lire la Bible, qu'il y a plusieurs genres de textes. Vous savez, quand on achète un livre, ça dit « roman », mais tout le livre est un roman. Vous achetez un livre, ça dit « essai », tout le livre, c'est un essai. Vous achetez un bouquin, « manuel scolaire », c'est un manuel scolaire. Vous ouvrez la Bible, vous découvrez au début un récit historique. Un peu plus loin, en Genèse, Exode et Lévitique, vous découvrez des textes législatifs, un peu comme le code civil ou le code pénal. C'est très légal, c'est tout à fait pour un avocat. Après, en arrivant à Josué, vous voyez, ça reprend un récit historique et ça ne s'arrête pas jusqu'au livre d'Esther. Et en fait, comme un bon bibliothécaire, en fait, les gens qui ont arrangé tous ces documents les ont arrangés par genre de littérature. L'histoire sur cette étagère, les textes de loi sur celle-ci, la poésie, on va le mettre là. Et donc, vous arrivez section par section et vous avez différents genres de littérature. Alors, par exemple, vous avez un passage où il dit « Abraham a pris ses animaux et il est parti dans un autre pays ». C'est un récit historique, ça raconte l'histoire. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire, voilà ce qu'il a fait. Joseph est parti voir ses frères dans le champ. On l'a jeté au fond d'un puits. On l'a sorti, on l'a vendu à l'Égypte. Il a fini premier ministre d'Égypte. C'est un récit historique. Puis vous arrivez dans les psaumes et vous trouvez des passages comme « Le soleil, comme un jeune héros, sort de sa chambre et court d'un bout du ciel à l'autre. » Et vous dites « Voilà, ça a l'air un peu poétique tout ça. » Oui, c'est une manière poétique de décrire le soleil qui se lève et qui va d'un bout du ciel à l'autre. C'est un langage poétique. On n'interprète pas la poésie comme on interprète un récit historique. C'est des littératures différentes. Le récit historique est vrai, la poésie est vraie, mais on ne l'interprète pas de la même manière. Puis vous avez des textes prophétiques. On pourrait en regarder un, par exemple, en Ésaïe 53. Ésaïe 53. Alors, les textes prophétiques sont uniques à la Bible. Vous n'avez pas de prédiction dans le Coran. Vous n'avez pas de prédiction dans les livres sacrés du bouddhisme. Dans aucune religion, vous n'avez des textes prophétiques. On a beaucoup parlé de Nostradamus, n'est-ce pas? À un moment donné, comme quoi il avait fait des prédictions étonnantes. Mais vous lisez ces prédictions, il faut avoir beaucoup de perspicacité et beaucoup d'imagination pour voir de quel événement il pouvait parler. Mais avec la Bible, ces textes prophétiques sont très clairs. Parce que l'accomplissement de la prophétie est un peu plus loin dans la même Bible. Vous dites, je ne vois pas de qui il parle, vous continuez à lire et vous découvrez de qui il parle. Alors, en Ésaïe, par exemple, Ésaïe 53, vous lisez, verset 2, il parle de quelqu'un. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On dit, je ne sais pas de qui il parle, mais cet homme, il a l'air plutôt ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui suscite notre admiration. Je continue. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Non seulement ce n'est pas un bel homme qui nous intéresse et qu'on admire, mais c'est quelqu'un que nous méprisons. Quelqu'un que nous méprisons et que même il semblerait qu'il ait souffert toute sa vie. Je ne sais pas toujours pas qui c'est, mais je lis, qu'est-ce que c'est que cet homme? Après, on continue. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais là, j'apprends que d'une manière ou d'une autre, tous les péchés que j'ai commis, c'est lui qui les a payés. Et les êtres humains, ils pensent que c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'il était mauvais. Voyez-le, c'est assez clair. Vous continuez à lire, et verset, par exemple, verset 9, « On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec les riches. » Ça, c'est bizarre. Il va mourir avec des méchants, puis va être enterré dans le sépulcre d'un homme riche. C'est assez peu vraisemblable. Il continue. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ah bon? Il va mourir et puis il va prolonger ses jours. Comment pouvez-vous prolonger vos jours si vous êtes mort? Et ça, c'est un parfait exemple des écrits prophétiques. Les écrits prophétiques sont généralement très clairs, comme celui-ci. Ce n'est pas difficile à comprendre. La question qui se pose, c'est qui est cet homme dont il parle? Qui est-il? C'est vrai que là, on ne sait pas qui c'est, mais vous continuez à lire dans la Bible et vous découvrez Jésus-Christ dans les évangiles. Et vous découvrez que Jésus-Christ est crucifié entre deux malfaiteurs. Ah oui, c'est vrai, parmi les malfaiteurs, il a dit. Et puis après sa mort, c'est un homme riche qui le met dans son sépulcre. Ah oui, ça disait que son tombeau sera avec les riches. Puis vous revenez en arrière, vous regardez tous les détails que vous avez lus en Ésaïe et vous lisez les évangiles. Ah, ça correspond. Alors ce « il » d'Ésaïe 53, eh bien, c'est ce Jésus que je trouve dans les évangiles 600 ans plus tard. Et donc, les écrits prophétiques, c'est une des grandes preuves que la Bible est la parole de Dieu, parce que Dieu nous en donne des centaines de prédictions sont données, précises, paradoxales, et puis, infailliblement, ces prédictions s'accomplissent dans le temps, et Dieu nous signale les accomplissements. Souvent, dans le livre de Matthieu, vous lisez Matthieu, et quelque chose se passe dans la vie de Jésus, vous savez, afin que soit accompli ce qui a été annoncé par prophète un tel. Et vous dites, regardez, la prédiction d'avant, qui était dans l'autre livre, ça s'est réalisé ici. Et on peut suivre comme ça des centaines de prédictions réalisées. Vous avez le récit de la vie de Jésus. Par exemple, dans le récit de la vie de Jésus, on découvre des choses étonnantes. En Matthieu chapitre 12, verset 40. Alors, prenons le verset 38. Jésus est en train de parler en présence de pas mal de ses ennemis qui sont venus le harceler. Alors, verset 38, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Vous avez entendu parler de l'histoire de Jonas et du grand poisson ? Ce prophète désobéissant qui a été jeté par-dessus bord parce que tous les matelots risquaient leur vie et qu'il avait demandé « Jetez-moi par-dessus bord parce que c'est moi qui amène sur vous le malheur. » Et quand le grand poisson l'a avalé et l'a amené à la berge et l'a recraché 3 jours plus tard et que Jonas a survécu, est allé à Ninive prêcher ce que Dieu lui avait demandé. Vous connaissez ce récit ? Il y a bien des gens qui disent « ça ne peut pas être vrai ». Ça doit être une légende. Vous continuez à lire, vous passez Jonas et vous lisez les autres, vous arrivez à Matthieu chapitre 13 et vous découvrez avec, enfin chapitre 12 et vous découvrez avec étonnement. Mais on dirait que Jésus y croit à cette histoire. Ben oui. Jésus croyait vraiment que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et il dit, comme c'était son cas pour lui alors qu'il a survécu, moi je vais être 3 jours et 3 nuits dans la terre. Je vais être enseveli, je vais passer 3 jours et 3 nuits dans un tombeau. Donc, si on dit Jonas, vous savez, c'est un peu une allégorie, c'est une petite histoire, ça a été inventé, c'est notre imaginaire collectif. Non. Jésus l'a pris comme un vrai récit historique. Et il y a cru. Et il a dit qu'il y a cru. Un autre exemple, en Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Verset 3, toujours poursuivi par ses détracteurs en voyage, il lui posait des questions pièges. Dans Matthieu 19, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Bonne question. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Avez-vous lu l'histoire de Genèse chapitre 2 et 3? Ce Adam, Ève, dans un jardin d'Éden, qu'il dit, voici celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été issue de l'homme. et que Dieu a dit les deux deviendront une seule chair dans le jardin d'Éden, beaucoup de gens pensent que c'est une allégorie, c'est une histoire imaginaire, c'est une parabole, c'est une fable. Jésus, il croit que c'est un récit historique. Quand on lui demande est-ce qu'on peut divorcer sa femme pour n'importe quel motif, il dit est-ce que vous n'avez pas lu que Dieu a créé un homme et une femme, qui les a mis ensemble et qui a dit vous êtes une seule chair, et ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Eh bien, c'est évident. Dieu ne veut pas que vous repoussiez votre conjoint. Il veut que vous restiez avec, puisqu'il a créé un homme et une femme au début et qu'il voulait qu'ils restent ensemble. C'est un puissant témoignage. Jésus-Christ lui-même croyait littéralement ce que la Bible était la parole de Dieu. Alors, soit Jésus-Christ s'est trompé, et ce n'est pas Dieu, donc ce n'est pas le Sauveur, c'est quelqu'un, le pauvre, qui a cru ses fables et il est à plaindre. Soit alors Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est, a-t-il dit, le chemin, la vérité et la vie, et il a cru l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est vrai. D'un côté ou de l'autre, il faut choisir. Celui qui place sa confiance dans le Dieu de la Bible, il est consolé. Quand il dit « Jésus-Christ croyait le récit de la Genèse », moi aussi, je peux y croire. Alors, le récit de la vie de Jésus, il y a aussi des paraboles. Alors, beaucoup de gens font beaucoup de cas des paraboles. Et oui, la Bible s'est remplie de paraboles, on n'y comprend rien. C'est des histoires imaginaires pour démystifier. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Mais une parabole n'est rien d'autre qu'une illustration. On a bien utilisé les illustrations. On peut même dire à quelqu'un, vous aimez telle voiture. Mais imaginez que vous êtes sur une route avec cette voiture et que vous avez un accident. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est pas, ça ne s'est jamais passé. Hein. On a dit, imaginez que. Ou alors, donner un exemple, c'est comme je me sentais tombé dans mon sommeil, comme si j'étais tombé au fond d'un gouffre. On n'a jamais dit qu'on est tombé dans un vrai gouffre. On est dans un rêve et on avait l'impression qu'on tombait dans un gouffre. Et Jésus a utilisé beaucoup d'illustrations. Mais la plupart des illustrations qu'il a utilisées, il les a expliquées. L'une des plus connues, c'est Matthieu chapitre 13. Il dit, un semeur sortit pour semer, verset 4, comme il semait, une partie de la semence est tombée sur le chemin. Une autre partie de la semence est tombée dans des endroits pierreux. Un autre endroit est tombé dans des endroits où il y avait beaucoup de ronces. Et puis une quatrième partie est tombée dans une bonne terre. Alors après, il dit, qu'est-ce qui est arrivé à ces semences ? Les oiseaux sont venus manger les semences qui étaient tombées sur le chemin. Les semences qui étaient tombées dans les endroits peu profonds ont poussé très vite, mais quand le soleil est venu, ça s'est séché. Les autres sont tombées parmi les épines et les mauvaises herbes qui les ont étouffées. Et les semences qui sont tombées dans la bonne terre ont donné beaucoup de grains. Alors, Jésus, il raconte cette histoire, c'est une parabole. Il n'était pas en train de parler d'agriculture en particulier. De quoi parle-t-il ? Eh bien, il dit justement, il dit verset 18, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Et il explique ainsi toute sa parabole. Donc si les gens vous disent, écoutez, la Bible c'est bien trop compliqué, il y a toutes ces paraboles, on n'y comprend rien, demandez-leur, avez-vous jamais vraiment lu une parabole de Jésus pour vous-même ? Sans doute ils vont dire, non, j'ai entendu ça, alors vous savez, vous leur montrez quelques paraboles, elles sont généralement très claires. Si vous êtes dans le contexte, elles deviennent claires, pratiquement toutes. Mais Jésus a donné des paraboles, des illustrations pour mieux se faire comprendre. Parce qu'on comprend parfaitement bien l'idée de semences qui tombent dans différentes terres et il a voulu s'en servir pour dire, mais quand je donne mon message, il y a des gens qui me regardent mais qui ne comprennent rien. Il dit, il y a des gens qui sont enthousiastes mais qui n'ont pas de persévérance. Il dit, quand je leur annonce mon message, il y a des gens qui disent, ah oui, ça c'est intéressant, il faut que je m'en occupe. Mais leur vie est tellement remplie d'autres choses qu'ils ne prennent jamais le temps de vraiment suivre. Et puis là, il y a des gens avec un cœur honnête, bon et persévérant qui reçoivent mon enseignement, qui deviennent mes disciples, qui mettent en pratique ce que je leur enseigne et qui portent beaucoup de fruits. Donc, pour les paraboles, dans les épîtres, les lettres, c'est ce qu'on appelle des textes de doctrine ou de l'enseignement. Dieu nous explique comment on doit vivre pour lui aujourd'hui. Et puis, dans l'Apocalypse, ce sont des visions. Alors, une vision, encore une fois, c'est une vision. Mais l'apôtre Jean, il monte au ciel, et vous savez, aujourd'hui, l'Apocalypse, qu'est-ce que ça signifie pour les gens autour de nous, l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est l'horreur. C'est des bêtes qui arrivent de nulle part et qui croquent les gens, et puis c'est la terre qui s'ouvre devant vous, etc., et c'est la fin du monde, et puis ça fait des films d'horreur extraordinaires avec des effets spéciaux de Hollywood. C'est Apocalypse, c'est ça finalement. Vous lisez l'Apocalypse, vous découvrirez effectivement il y a des êtres bizarres que l'apôtre Jean n'arrive pas à décrire précisément parce qu'il ne les a jamais vus avant. Et nous, on ne les a jamais vus non plus. Alors, il dit, j'ai vu des êtres qui sortaient de l'abîme, ils avaient comme des cheveux de femme, ils avaient des pinces qui piquaient les gens, des dards, ils avaient des pattes comme des pattes de chevaux, ils couraient, et il a dit, j'ai vu des gens qui ressemblaient à des grenouilles qui sortaient des esprits impurs. Et dans une vision, il décrit ce qu'il voit, mais il est obligé de prendre des mots que vous et moi, on va comprendre. Mais ce n'est pas une vraie grenouille comme dans votre jardin. C'est des êtres terrifiants qui ressemblent, voyez. Et donc, il est décrit de son mieux. Mais l'essentiel de l'Apocalypse, c'est voir la gloire et la magnificence de Jésus-Christ. C'est ça l'Apocalypse, c'est le dévoilement de la gloire de Jésus-Christ. On pourrait, par exemple, lire la vision qu'il a de Jésus-Christ dans la Bible, dans l'Apocalypse. On vient de voir en Ésaïe chapitre 53, Jésus est décrit comme quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'a rien pour nous plaire. On va lire maintenant un texte où Jean, il voit Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est tout autre. On pourrait dire, ça y est, j'ai trouvé une contradiction dans la Bible. Parce qu'ici, il dit qu'il n'a pas d'éclat, et là, il dit qu'il a de l'éclat. La Bible est bourrée de contradictions. Non. Ésaïe 53, dans tout le chapitre, il parle de la première venue de Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, vers l'an 0, 600 ans après Isaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il a été l'agneau de Dieu qui a souffert. C'est à ce moment-là qu'il était cloué parmi les criminels, qu'il était enseveli avec un riche, et qu'après être mort, il a continué à vivre par la résurrection. Donc, ce passage s'applique à la première venue de Jésus. Et là, nous sommes dans l'Apocalypse sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Regardez ce qu'il dit, verset 1, Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Des choses qui ne sont pas encore arrivées. Des choses à venir, c'est clair. Comment sera Jésus à l'avenir? Nous arrivons, par exemple, au verset 12. Même verset 11. J'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, revêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige, la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà une image, une vision de Jésus-Christ dans sa gloire. Alors, vous avez lu la description avec moi, il n'y a absolument rien de mystérieux, n'est-ce pas? Un bon artiste pourrait faire une représentation de Jésus-Christ d'après cette description. Tout y est complet, la couleur des cheveux, l'habillement de cet homme, ses pieds, son épée dans la main. Dans sa bouche, et puis dans sa main des étoiles, son visage. Et bien sûr, Jean est terrorisé de la splendeur, de la grandeur, de la puissance de cette personne qu'il voit. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ta main, donc ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Même les étoiles et les chandeliers, Jésus nous explique ce que ça représente. Pourquoi nous avons l'Apocalypse ? Parce que Dieu, verset 10, ça donne l'idée, 1-10, il dit, « J'étais dans l'île appelée Patmos, ça c'est à côté de la Grèce, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix. » Donc Jean, le dimanche, a une vision, et il voit toutes ces choses. Il les entend et Dieu lui dit, écris ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Ce qui fait que l'Apocalypse, c'est la description de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu dans cette énorme vision qui concerne la fin des temps. Et pour la quasi-totalité de ce texte, les choses sont très claires. C'est inhabituel, mais c'est clairement dit. Il y a un peu de symbolisme, mais très très peu. La plupart, c'est comme ça. Ça se lit, ça se comprend comme ça se lit. Dieu a voulu dire ce qu'il a dit, il a dit ce qu'il a voulu dire. On pourrait continuer longtemps, mais je voudrais juste aborder un ou deux autres sujets. Premièrement, révisons maintenant, une Bible, plusieurs interprétations? Non. Comme n'importe quel autre livre, il y a une seule vraie interprétation à n'importe quel texte. C'est basé sur le fait que c'est la parole de Dieu et sans erreur. C'est ce que la Bible dit d'elle-même. C'est basé sur le fait que toute la Bible est un ensemble, c'est comme un corps. On ne peut pas prendre une phrase et la sortir et faire dire autre chose que ce que dit le restant de l'Écriture. Il faut qu'il y ait une harmonie dans les enseignements de la Bible. Ensuite, troisième chose, quand on ouvre la Bible, il faut repérer quel est le moment où c'est écrit, qui l'écrit, dans quelles circonstances écrit-il, quel est le genre de littérature. Est-ce que je suis dans un récit historique? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est de la poésie? Tout est vrai, mais il y a différents genres de littérature. Ensuite, il faut que ce soit en rapport avec le contexte. En rapport avec le contexte, il y a un petit exemple. Regardez Actes chapitre 27. On pourrait imaginer, Si le pasteur ici voulait former une secte à Perpignan, parce que vous êtes à côté de la mer, on n'est pas très loin de la mer, on pourrait former la secte du navire. Est-ce que vous voulez vous joindre à notre secte du navire? Pourquoi une secte sur le navire? Eh bien, parce que la Bible parle que si vous n'êtes pas dans un navire, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça vous étonne. Mais en Actes chapitre 27, verset 30, « Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, de quoi s'agit-il? Bien entendu, il s'agit d'être sauvé dans la noyade. Parce que leur bateau était prêt d'échouer sur une île. Ils avaient passé 14 jours dans une horrible tempête. Et les matelots voulaient sauver la peau parce qu'en fait, c'était un bateau de prisonniers. Bon, alors, pour les Romains, les prisonniers pouvaient mourir, noyés, ce n'est pas un problème. Mais les matelots voulaient vivre. Donc, ils voulaient mettre le bateau de sauvetage, le bateau d'urgence. Hein? Dans la chaloupe, oui, bien sûr. Mais je cherchais un autre mot, le canot de sauvetage, on va dire, hein? Un bateau de sauvetage, à la mer et sauter dedans. Mais pour ne pas montrer, ils prétendaient qu'ils jetaient les ancres, vous voyez. Mais en fait, ils étaient en train de mettre le petit bateau à la mer pour sauter dedans et se sauver sur l'île et laisser les prisonniers mourir. Et Paul, il a vu leur manège. Il a dit au capitaine, si les matelots ne restent pas avec nous, on ne sait pas naviguer, on va tous mourir, on ne pourra pas être sauvés de la noyade. Donc, ils ont gardé les matelots avec eux, et quelques temps après, le bateau est arrivé sur l'île, ça s'est cassé en plusieurs morceaux, et tout le monde a pu prendre une planche et arriver sain et sauf sur l'île. Personne n'est mort de noyade. Mais si on prend ce verset, si vous ne restez pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous voyez ? Vous pouvez faire un navire et dire, la Bible dit, si vous n'êtes pas sur le navire, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est clairement utiliser la mauvaise foi. Parce que si l'un de vous commence à lire le récit, vous allez voir le pasteur en disant, je crois que tu te trompes par rapport au navire. Ça, c'était du temps de l'apôtre Paul, quand le navire était près d'échouer. Ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui, au XXIe siècle, à Perpignan. On est nullement obligé de venir dans un navire pour être sauvé. Alors, regardons. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Ce passage est vraiment un problème. Enfin, un problème. C'est une phrase qui pose vraiment des questions, surtout aux femmes. Il dit, verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous dites, oula, si vous êtes une femme, vous dites, oula, si vous êtes maman, vous dites, ouf, ça y est, c'est bon. Mais si vous êtes encore jeune fille, vous n'avez pas eu d'enfant, vous dites, ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne peux être sauvé que si je deviens mère. Savez-vous qu'un autre groupe qui fait régulièrement le tour du quartier, qui s'appelle les Mormons, ils prennent ça littéralement, une femme ne peut pas aller au ciel à moins d'être mère. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour faire ça? Pour les femmes qui ne sont pas mariées, au début, il y avait la polygamie. Et comme la polygamie est interdite maintenant, ils ont spiritualisé la chose et disent, si vous êtes une jeune fille célibataire ou si vous êtes une femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant, quand vous mourrez, avant de mourir, vous devez vous marier avec un homme mormon dans le tabernacle, dans le temple mormon. Alors vous n'allez pas vivre ensemble sur la terre, mais vous êtes mariés pour l'éternité. Et quand vous mourrez, et cet homme mourra, vous formerez un couple là-haut et vous aurez beaucoup d'enfants, mais pas des enfants physiques. Vous allez enfanter des âmes, et quand les enfants naissent sur la terre, les âmes que vous avez enfantées là-haut vont descendre habiter dans les corps que les gens d'ici ont mis à l'hôpital, ont accouché. Ça, c'est la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. Et ça permet à toutes les femmes de devenir mères, au moins spirituellement, dans le ciel, avec un géniteur. Alors, on a connu une dame qui nous a dit, oui, oui, on m'a marié avec un homme mormon dans le temple pour l'éternité. Donc, quand je serai au ciel, j'aurai un mari et j'aurai des enfants et comme ça, je serai sauvé. Ça va loin, n'est-ce pas? Alors, on est sauvé de quoi ici? Encore une fois, le contexte va nous le dire. Regardez bien. On voit donc dans le verset 11 et 12, on a l'impression en lisant ce passage que la femme ne peut rien faire, qu'elle doit demeurer dans le silence. Dans d'autres passages de la Bible, on trouve que la femme peut prier et prophétiser. Donc, obligatoirement, elle peut parler. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par demeurer dans le silence? Alors, il explique, versets 13 et 14, qui a eu la conversation avec le serpent? C'est elle. Et que s'est-il passé? Elle est tombée dans une séduction. Elle a été séduite par le discours du serpent. Et alors, écoutant le serpent et son raisonnement, son discours, c'était Satan, bien entendu, elle a pris de l'arbre défendu, elle a mangé le fruit défendu, elle a donné à son mari qui en a mangé. Elle est péchée parce qu'elle est séduite. Adam a péché, on va dire, les yeux ouverts. Alors, si elle est mère, en quoi ça va la protéger ou la sauver de la séduction? L'idée ici, simplement, c'est que si une femme se donne uniquement à son bon sens, à sa logique, qu'elle n'a aucun homme dans sa vie, par exemple, son père, elle est fâchée avec lui, elle n'a pas de mari, elle va un peu partout là où son cœur lui dit, il y a un danger, ce n'est pas une fatalité, mais il y a le danger d'être séduite par un discours qui va l'amener dans la fausseté. Mais si elle se marie, elle est maman, et elle s'occupe de ses enfants, et elle parle avec son mari, elle a beaucoup moins de risques d'être séduite. Bon, la même chose va pour un homme, en quelque sorte. Un homme qui dit, moi je n'écoute personne, je sais tout, personne ne peut jamais me conseiller, moi je n'écoute que mon cœur, quelqu'un va arriver à le séduire, hein, dans un domaine ou dans un autre. Donc, il dit en fait, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. La place de la femme, selon ici ce passage, c'est d'être l'adjoint de l'homme, de travailler aux côtés de l'homme, de l'assister, non pas de prendre la direction spirituelle. Et sauver de quoi? De transgression ou sauver de la séduction. Et n'importe qui, homme ou femme, hein, si on persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, comment voulez-vous être séduit par le péché? C'est ça la tête. Ce n'est pas le fait juste en devenant mère. Parce qu'il dit, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il y avait à l'époque, surtout à l'époque, beaucoup de femmes qui voulaient se vouer à Dieu, mais d'une manière tout à fait mystique. Et dans toutes les religions idolâtres de l'époque, il y avait le culte de la fertilité. Vous avez des prêtresses idolâtres qui étaient des femmes pas vertueuses, c'est des femmes qui recevaient les adorateurs et vivaient, on va dire, en amour, pas en amour pur, hein, avec eux, et ça faisait partie du rite religieux. Et Paul dit non, ne restez pas comme ça, ne restez pas vulnérable. Mariez-vous et les enfants, dirigez votre foyer, aimez votre mari. Si vous faites ça, si vous vivez dans la pureté, dans l'amour, dans la sainteté, vous serez occupé, votre maison sera un lieu de vie et d'amour pour votre mari, pour vos enfants. Et si quelqu'un frappe à la porte avec un discours de séduction, qu'est-ce que vous allez dire, madame? Vous allez dire, je ne prends pas des décisions toute seule, attendez que mon mari revienne à la maison et vous en parlerez avec lui. C'est une délivrance. C'est simplement par rapport à ce verset, si on regarde le contexte, juste le contexte autour, on commence à voir de quoi il peut s'agir. Il ne s'agit pas d'être sauvé par Jésus-Christ pour l'éternité. Un autre passage, Romains chapitre 8. J'ai un ami, un pasteur, qui m'a dit, mais il dit, moi j'évite maintenant de dire aux gens qui sont sauvés. Je leur montre ce verset, je dis, vous n'êtes pas encore sauvés, mais vous le serez peut-être un jour. Alors ça a troublé beaucoup de gens. Parce que dans une église où on avait toujours enseigné, on est sauvé pour l'éternité, dès qu'on accepte Jésus-Christ en son cœur, et quand il leur disait, mais vous n'êtes pas encore sauvés, il vous reste encore d'être sauvés, les gens commençaient à prendre peur. Alors je suis perdu. Non, mais vous n'êtes pas encore sauvés. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez, Romains chapitre 8, il avait raison, hein, mais pas dans le sens que vous pensez. Dans le verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Donc, on a le salut, on a le Saint-Esprit en nous. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, pour dire une espérance, c'est quelque chose qu'on va avoir, mais qu'on n'a pas encore. Et il dit, nous sommes sauvés en espérance. Mais quelle partie n'est pas encore sauvée? Notre corps. Votre corps et le mien, il n'est pas encore sauvé. Parce qu'il n'est pas encore glorifié. On a toujours nos petits bobos, on a toujours nos maladies. La mort nous guette un jour ou l'autre. Si le Seigneur tarde à venir, on va mourir, être enterré comme tous ceux qui nous ont précédés. Notre corps n'est pas glorifié. Notre âme est sauvée, notre esprit est sauvé, mais notre corps, ben, on a toujours le même corps qu'on a eu depuis notre naissance. Un jour, Dieu nous en aura encore glorifié. Et il dit, nous attendons la glorification de notre corps. Cette glorification aura lieu à la résurrection. Le corps est semé infirme, le corps est semé malade, le corps ressuscite plein de force. Et donc, nous sommes sûrs d'aller au ciel, nous avons les prémices de l'Esprit, mais nous n'avons pas encore toute la gloire du ciel que Dieu nous a promis. Nous attendons cela avec persévérance, mais on ne l'a pas encore en main. Et donc, nous ne sommes pas encore sauvés, notre corps. D'accord? Mais si on ne regarde pas le contexte, et on prend le verset hors de son contexte, et on va le tordre, on va mettre tout le monde en ébullition en disant, vous comprenez, vous avez beau avoir reçu Christ, vous n'êtes pas encore sauvé. On pourrait continuer longtemps. Mais pour comprendre la Bible, il faut passer par la nouvelle naissance. Ça, c'est peut-être la chose essentielle. Et terminons avec 1 Corinthiens chapitre 2. Dans les versets, enfin, le premier chapitre d'abord, il dit, verset 22, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » C'est très clair, Dieu dit, je vais vous sauver, j'ai la puissance de vous sauver, et j'ai la sagesse de vous sauver, par Jésus-Christ et par sa croix. Christ a payé pour vos péchés sur la croix, il vous donne la vie éternelle. C'est un don. C'est la puissance et la sagesse de Dieu qui se manifestent à la croix. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas les raisonnements humains, ce n'est pas la philosophie humaine, c'est le message de la croix qui sauve les gens. Bon, si vous êtes passé par cette croix, nous lisons verset 7 du chapitre 2 maintenant. Si nous avons reçu la sagesse de Dieu en Jésus-Christ par sa croix, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand on ouvre la Bible, il faut penser, je vais découvrir des choses que jamais je n'aurais pu imaginer. Je vais découvrir des choses que jamais je n'aurais pu découvrir par moi-même. Ça va être des choses tout à fait nouvelles. Comment je vais les comprendre si je ne les ai jamais imaginées avant? Comment je vais faire pour les comprendre? Cette sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, comment je vais faire pour la comprendre? Continuons. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La réponse est là. Dieu nous donne de comprendre les choses de Dieu par son Esprit. Et ces choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, Dieu a tout un vocabulaire spécifique pour nous les faire comprendre. Par exemple, le mot propitiation. Vous connaissez le sens du mot propitiation? C'est le sacrifice de Christ fait que Dieu, il est propice pour Dieu de vous pardonner. Ça fait que Dieu est d'accord pour vous pardonner parce que quelqu'un a payé pour vous. L'expiation, c'est l'autre côté. Jésus efface nos péchés. Il paye pour nos péchés, ce qui nous permet d'être accepté par Dieu. Le mot justification. On le voit, lui se justifie tout le temps. Hein? Parfois, on n'a pas le mot justifié, mais le mot justification veut dire Dieu nous déclare juste devant lui-même à cause de Jésus-Christ. La substitution. Jésus a été notre substitut. Alors, certains de ces mots existaient déjà, mais d'autres, l'apôtre Paul les a inventés dans le grec pour donner une idée qui était nouvelle. Une idée qui vient de Dieu, une idée qui vient par le Saint-Esprit. Et donc, il emploie un langage biblique, un langage spirituel, pour parler de choses spirituelles. Alors, il parle de trois types d'hommes. Verset 14. Mais l'homme naturel, ça c'est l'homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ. Nous continuons vers cette troisième catégorie d'hommes. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Trois catégories d'êtres humains. Mes amis, dans quelle catégorie nous trouvons-nous ce soir? L'homme naturel, vous dites, je n'ai jamais reçu Christ dans mon cœur comme mon sauveur. Je ne connais pas les choses de Dieu. Je ne savais pas que Jésus-Christ est mort pour me sauver. Je croyais que mes bonnes œuvres suffiraient. J'espérais pouvoir négocier avec Dieu un jour pour entrer au ciel. Je ne connais pas ces choses. Vous êtes un homme naturel, c'est-à-dire tel que vous êtes, tel que nous avons tous été, mais sans connaître Jésus-Christ. Si vous passez par la nouvelle naissance, vous deviendrez un enfant de Dieu. Peut-être vous dites, moi, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé, mais alors je reconnais que j'ai beaucoup de luttes dans ma vie. Je lutte avec moi-même, je lutte avec les autres, je ne m'entends pas avec les gens, Je me dispute avec les gens. J'ai des tas de chaînes de péché qui me tiennent esclave. Je suis mal dans ma peau. Quand je prie, j'ai plein de choses à confesser. Parfois, je n'ai pas envie de prier. J'ai tellement honte. Je vis plutôt dans la défaite. Je sais que je suis sauvé. Je sais que Jésus est mon sauveur. Je sais qu'il peut me rendre plus que vainqueur. Mais la plupart du temps, je vis dans la défaite. Ça, c'est un enfant de Dieu qui est sauvé, mais qui vit avec ses propres forces. Je vais essayer de redoubler d'efforts et de faire mieux. Ça ne marchera pas. L'homme charnel. Il y avait dans cette église des chrétiens qui étaient charnels. Et puis il y a l'homme spirituel. Alors, l'homme spirituel n'est pas quelqu'un de parfait. Mais il lit la parole, il accepte ce que Dieu dit, il dit non au péché. Généralement, il dit non à la tentation et il vit dans une victoire qui est entretenu, il dépend de Dieu, il compte sur Dieu, il reste dans l'humilité. Comme Jésus dit, demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Ça, c'est ce que vit cet enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu vit dans une certaine victoire. Homme spirituel, homme charnel, homme naturel. Seul l'homme spirituel peut vraiment bien comprendre la parole. Et c'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut faire ma volonté, il saura si ma doctrine est de Dieu ou non. Alors, y a-t-il plusieurs interprétations? Il y a une seule vraie interprétation pour chaque passage de la parole de Dieu. Et si on tord le sens des Écritures, si on ne tient pas compte du contexte, on peut comprendre toute autre chose et aller vers sa propre ruine. Dieu n'est pas compliqué. Il est infiniment complexe, mais il n'est pas compliqué avec nous. Il nous aime. Et cette lettre est une lettre d'amour qui est compréhensible.